qui est très souvent employé, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on l'a signalé. Mida, ça veut dire en hébreu d'abord une mesure. Mida. Le verbe c'est limdon, mesurer. Vous avez toute une série de substantifs qui se rattachent à cette racine que vous apprendrez à l'Ulpan inévitablement, à moins que vous l'ayez déjà rencontré ce terme à l'Ulpan. Okay. L'étmodet, qu'est-ce que ça veut dire? Se mesurer à. Mais vous avez par exemple le mot de memad. Qu'est-ce que ça veut dire memad? Une dimension. Memad. Même dalot. Memad, oui. Une dimension. Mais c'est d'abord l'idée de mesure. Ensuite, au niveau des réalités spirituelles, l'idée de mesure, c'est la qualification. Alors donc, le deuxième sens de Mida, c'est une qualité. En français, on a pris l'habitude de dire qualité pour dire les bonnes qualités, et défaut pour dire les mauvaises qualités. Mais en hébreu, le terme est d'abord indifférencié. C'est une qualification, morale, par exemple. Mais finalement, Mida Tova, c'est une qualité dans le sens français, positif, et Midavara, c'est un défaut. C'est clair? Donc, alors, Midavoufrezet, c'est lorsque une qualité est exclusive, mais surtout lorsqu'elle est exagérée, et ça, je ne reviens pas sur l'analyse d'hier, ça nous prendrait au moins autant de temps, je pense que vous l'avez en tête, elle devient néfaste. Vous vous rappelez de cela? Bon, c'est un thème très important et que vous rattachez au sujet d'études que nous avons souvent rencontrées. La raison pour laquelle il faut différentes étapes de dévoilement d'identité pour arriver à l'identité d'Israël. Ces trois étapes étant Abraham, Yitzhak, Yaakov, et déjà au niveau d'Abraham, il y a toute une série des épisodes du récit qui s'éclairent par cette clé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dévoiler l'amida de Chesed. L'amida de Chesed, c'est quoi? Charité. Et au début de l'année, vous aviez une réticence à l'emploi du mot de charité. Je ne sais pas qui, toi peut-être. Okay. J'y ai réfléchi depuis. C'est qu'il ne faut pas penser recette charité avec le sens de aumône. Ce n'est pas une aumône. Ça, c'est la tzedaka. Okay. Et ne confondez pas tzedaka, l'aumône, qui peut avoir un sens péjoratif. Comment on appelle ça en français? J'ai oublié. Une espèce d'attitude paternaliste. Non, ce n'est pas paternaliste exactement. Vous comprenez ce que je veux dire?
Protectrice,
oui, c'est ça. Et il y a effectivement là, il a une dimension un peu négative, avec tzedek, qui est la charité, qui n'est que justice que de faire cette charité-là. Mais dans tous les cas, la notion de charité dépasse considérablement la notion de l'aumône. L'aumône, on fait un pauvre, tandis que la charité, on peut le faire à un riche aussi. Vous avez compris pourquoi? Bon. Alors, il faut d'abord que se dévoile la capacité de Mida de Chesed. Mais si elle est seule, si elle est exclusive et surtout si elle est exagérée, elle risque de devenir néfaste. La difficulté est que la charité n'est authentique que si elle est absolue. De même pour les autres midot. Par conséquent, je cherche une stratégie d'unité des valeurs, une stratégie de synthèse des valeurs qui est proprement surhumaine. Comme je vous ai dit la dernière fois, on reviendra d'ailleurs sur ce thème quand on arrivera surtout à l'histoire de Jacob. C'est clair jusque-là, okay? Alors nous allons avoir une première illustration de cela dans le chapitre 15, puisque je vais vous citer une référence du Talmud qui explique que, à cause de cette tendance à la mida mufrezet, ça veut dire à la vertu exagérée, cette tendance-là à la vertu exagérée, qui est le propre d'ailleurs de la bonne foi non encore éclairée par l'expérience dans le processus de la stratégie de la conscience morale pour arriver à trouver son équilibre, c'est la cause profonde de l'exil. Entendu comme ça, ça paraît très paradoxal, quel rapport? Mais il faut déjà découvrir ce fait. L'exil, l'éventualité de l'exil va être annoncée à Abraham déjà, et ça va être relié à cette tendance à la vertu exagérée. Bon, retenez ça comme donnée du problème, et nous allons voir en texte. Un premier principe qui me semble extrêmement important pour éclairer ce qui va suivre. La difficulté du texte que nous allons voir concernant l'annonce de l'éventualité de l'exil à Abraham vient de ce que on a pris l'habitude finalement, pour avoir traversé le contexte occidental, l'atmosphère occidentale de ce problème, de la dispersion du peuple juif, avec sa nuance chrétienne, c'est plus qu'une nuance, c'est un système, que la notion d'exil apparaît a priori comme étant la sanction d'une faute. Je crois que vous êtes probablement très familier à cette thèse, que l'exil vient sanctionner une faute. Alors, on va commencer aujourd'hui un peu à s'occuper de ce problème, mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est le premier principe que je vais vous citer, c'est que cette annonce de l'éventualité de l'exil, et retenez bien pourquoi j'emploie ce terme éventualité, c'est-à-dire c'est pas fatal a priori, bien que ce soit annoncé, mais c'est annoncé comme éventualité, elle est a priori du commencement de l'histoire d'Israël. Donc, cette remarque vient s'inscrire contre, si vous voulez, cette pseudo-évidence provisoirement que l'exil est la sanction d'une faute. Puisqu'il n'y a pas encore eu d'histoire, donc il n'y a pas encore eu d'événement de faute, et voilà que l'exil est annoncé. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Bon, retenez bien cette difficulté, nous aurons à nous en occuper à travers toute l'analyse d'aujourd'hui. Alors, je reprends le déroulement du récit. Le fil conducteur de ce que nous avons appris hier, c'est qu'il faut que se fasse un développement de l'identité hébraïque qui était devenue clandestine, enfouie, occultée dans l'identité d'exil, qui est l'identité araméenne, pour que Abraham devienne Abraham, c'est le signe, le changement de nom, mais pour que Abraham, devenant Abraham, soit de plus en plus en mesure d'entendre les promesses qui lui sont faites. Et vous rappelez que ce terme de promesse est à critiquer, je l'ai employé en français comme ça, mais vous rappelez, j'en ai parlé à propos de la promesse de la terre, c'est pas des promesses dans le sens qu'il y aurait une clause. C'est pas une promesse avec une, je sais pas comment dire, une clause. Okay. Vous comprenez cela, on est vraiment dit un aïe, une condition. Une promesse, dans ce récit, la promesse que Dieu fait résulte d'un jugement préalable. Tout se passe comme s'il y a un jugement préalable à un certain stade de l'histoire de l'humanité. L'avenir des engendrements passe par cette famille d'Abraham, par Abraham en particulier. Et donc il y a un jugement préalable et a posteriori de ce jugement, cette interpellation de promesse est inconditionnelle. C'est parce qu'Abraham est ce qu'il est et celui qu'il est que la promesse s'adresse à lui. Par conséquent, à ce niveau-là, c'est inconditionnel. Et pourtant, la difficulté sera, et elle est vécue par Abraham, et comment se fait-il que cette promesse, même pressentie, commençant à être entendue, ne se réalise pas ? Et nous allons le voir dans le chapitre 15 en particulier. Alors, on pourrait avoir l'hypothèse, elle ne se réalise pas parce qu'il y a une clause, parce qu'il y a des conditions. Eh bien, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a une clause ou qu'il y a des conditions, il y a une seule condition, c'est qu'Abraham soit Abraham. Mais il l'est déjà en principe, donc c'est à lui que la promesse s'adresse, mais c'est une promesse, il faudrait changer de terme, c'est une promesse inconditionnelle. Une promesse inconditionnelle, c'est plus qu'une promesse, c'est une certitude. C'est clair jusque-là ? Pour rappeler ce qu'on a appuyé cette analyse, à propos de la promesse de la terre, sur le verset 7 du chapitre 14, si vous vous souvenez du chapitre 12, c'était le mot de « les aracha etem et aretz » à ta postérité, je donnerai ». Et au niveau de ce qui promet, c'est déjà donné. Je pourrais analyser cela de différentes manières, mais j'espère que l'idée vous est suffisamment claire. C'est clair jusque-là ? Quelqu'un à qui on a des raisons de faire confiance, si ce quelqu'un promet, c'est déjà fait. Je ne sais pas comment le dire.
Promesse en train de manipulation.
Oui. Mais alors, le fait que dans le temps, il y a tout un processus pour la réalisation pourrait faire penser à une idée de clause, de condition, et c'est ce problème qu'il faut que nous étudions bien en détail. Okay ? C'est bien clair ? Le seul exemple que... Bon, c'est une analyse qui nous mènerait trop loin, mais si tout à l'heure me revient, un exemple pour vous expliquer cela. À partir du moment où quelque chose doit arriver, parce que cela procède d'une vérité absolue, eh bien c'est arrivé déjà, même si c'est pas arrivé encore. Je sais pas comment vous dire ça. C'est clair ce que je dis ? Pardon, c'est pas clair. Je vais vous donner une image. Vous savez qu'une des grandes réussites de la science moderne et de la technique moderne, c'est les satellites. Bon, on peut relire toute l'histoire de la technique humaine a posteriori de cette étape à laquelle on est arrivé. Les satellites, comment vous savez ce que c'est ? Khalalit. les vaisseaux inter-torts. Dès que l'homme a inventé la roue, il avait déjà inventé le satellite. Seulement, il fallait le temps que ça se réalise. C'est clair ? Un exemple un peu loin, mais enfin, vous comprenez un peu l'idée. Donc, alors reprenons le chapitre 15. Alors, vous rappelez qu'on avait déjà plusieurs références où la promesse de la descendance et de la terre sont données à Abraham de façon de plus en plus explicite. Et voilà que nous arrivons encore au chapitre 15, à une reprise du sujet de façon encore beaucoup plus explicite. Et c'est là que le texte va nous mettre en évidence, pour le moment, je vais employer le terme des hésitations d'Abraham à entendre cela. Nous avons eu déjà la réponse. C'est qu'il faut qu'Abraham opère une véritable révolution d'identité pour arriver à accéder à cette évidence que c'est bien lui qui est concerné par cette interpellation. Vous vous rappelez de cela ? C'est clair pour tout le monde ? Alors, je prends dès le premier verset. Vous avez le livre sous les yeux, tout le monde ? Donc, « Achar advarim haele » Après ces événements, « Haya devar Hashem el Abraham » La parole de Hashem fut donnée à Abraham, révélée à Abraham. « Bamachazé » Dans une vision. Retenez ce mot de « Mahazé » Dans une vision, c'est-à-dire il n'y a pas seulement par l'écoute, par ce qu'on entend, mais par une identification de quoi il s'agit, à travers une catégorie de signification, d'images, et qui sont familières à Abraham. Et pour nous, nous avons besoin d'un commentaire pour élucider ces images. Mais à travers les données culturelles propres à la culture de ce temps, c'est clair pour celui qui en a expérience. C'est dans un autre moment culturel, il faut expliquer de quoi il s'agit. Bamachazé, dans une vision, les mots en disant « Altira Abraham, ne crains pas Abraham, Anochi Magen Lach, je suis, je te protège, je suis ton bouclier, Sralcha Arbe Meod, ton salaire est très nombreux, ton salaire est très grand. » Là, une indication importante que vous éclairez par tout ce qui se passe dans le chapitre 14. C'est lorsque Abraham va intervenir dans une guerre qu'il y a entre les rois de la région, 4 rois contre 5 rois. Dans cette guerre, Lot avait été pris comme prisonnier. Alors Abraham est intervenu pour libérer Lot. Et il a été victorieux de cette guerre. Et ça peut nous sembler extrêmement paradoxal. Abraham, on le connaît jusqu'à présent comme le héros de la vertu de charité, et voilà qu'il se dévoile comme un guerrier qui gagne la guerre. Retenez bien cela. Et alors, je vous résume un peu tout ce qui se passe entre les deux chapitres, enfin, ce qui n'est pas dit de façon explicite, mais qui est nécessaire à rappeler pour comprendre la suite. Abraham se trouve confronté à une expérience de scrupule extrêmement importante. Peut-être que, je forme ça comme hypothèse, voici comment ce scrupule est vécu par lui, peut-être que le mérite qu'il pouvait avoir est contrebalancé par les bienfaits de l'intervention de Dieu comme providence pour le protéger dans cette guerre. Et qu'il aurait utilisé son mérite qui serait compensé par le fait d'avoir été sauvé pendant cette guerre et qu'il serait ramené au point de départ à zéro dans la reconquête du mérite. C'est clair jusque-là ? À cela répond, on voudrait d'ailleurs à travers Rachid, le commentaire de Rachid ou d'autres commentaires, à cela répond ce verset, ne crains pas, bien que tu aies été victorieux, ça ne veut pas dire que ton mérite a été balancé, je ne sais pas quoi, vous voyez, il y a une espèce de bilan comptable, ton salaire reste grand. Pourquoi nous en avons besoin pour ce sujet ? Parce qu'on pourrait supposer, Abraham pourrait supposer, que bien sûr, les promesses qu'il a fini par entendre le concernait, mais maintenant il n'a plus autant de mérite et ça ne le concerne plus. Pour le dire d'une autre manière, la révélation à Abraham se faisait quand Abraham était séparé de Lot. Mais voilà que Abraham s'est rapproché de Lot, alors que peut-être cela va empêcher qu'il soit encore concerné par ses promesses. Vous avez compris ? Ça, c'est pour ce verset. Et effectivement, ça, ici nous allons voir au verset 2, la suite, Abraham formulait ses hésitations à oser croire qu'il est l'objet de cette promesse. Retenez bien que je n'ai pas dit doute. Pour le moment, je vais dire hésitation, scrupule. Et ensuite, plus tard, on va employer ce terme de doute pour le situer très exactement. Ça, nous l'avons déjà vu dans les cours précédents sur ce sujet. Abraham ne va pas douter que Dieu puisse accomplir ce qu'il promet, il ne s'agit pas de ça, mais Abraham risque de douter qu'il est celui qui mérite que cela s'accomplisse pour lui. Vous avez compris juste ? Vous voyez déjà, on n'est pas encore dans le fond du sujet, mais vous voyez déjà la mida moufrezet, la vertu exagérée. C'est clair ? Et rappelez-moi, je vous donne quand même cette référence du Talmud dès qu'on arrivera au verset, au verset en question. Alors je continue. Verset 2, Vayomer Abraham, et lorsque Abraham entend cela, que son mérite est intact malgré tout, Adonai Elohim, Seigneur Dieu, Matitenli, que me donnerais-tu, Veanochi, alors que moi, Holech Hariri, je suis sans descendance. Ce mot de Hariri que vous avez au verset 2, Hariri, en prononciation exacte, Ain Resh Resh, n'a pas de traduction littérale en français, c'est une notion qui désigne celui qui vit sans aucun proche, sans enfant, sans frère ni sœur, etc. On dit que quelqu'un est hariri. Comment on dit ça en français? Quelqu'un qui vit tout seul, qui n'a plus personne.
Orphelin.
Orphelin, dans le sens de Alfred de Musset, peut-être. Solitaire, mais c'est trop large. Bon, mais vous avez compris l'idée. Hariri, ça veut dire celui qui est sans proche, par exemple. Et en particulier.
C'est
un ermite, non. Un ermite peut avoir des frères et des sœurs et même des enfants, mais il les a quittés, c'est pas ça. Et cela, non, oui, c'est trop vague. Vous avez compris l'idée? Et en particulier, il n'a pas d'enfant, il ne peut plus en avoir, c'est comme ça qu'il se pense. Alors il est hariri, encore sans enfant. Ou ben meshek beti, et l'intendant de ma maison, meshek. C'est. Que ça veut dire meshek? En hébreu, Meshek, on entend que ça avec le problème économique. Oui, non, c'est pas l'économie, Kalkala.
L'administration.
Meshek.
La gestion.
L'administration.
C'est ce que l'on gère, un Meshek. Un marché. L'intendance, Ben Meshek. Littéralement, ça veut dire le fils du Meshek, c'est-à-dire l'intendant de ma maison, où c'est Damesek Eliezer. Eliezer de Damas. Bon, vous apprenez un peu de géographie. Damas, en hébreu, ça se dit Damesek. Vous l'avez dans le verset, regarde comme c'est écrit. D'ailleurs, il y a des commentaires sérieux qui se basent sur ce fait pour dire que Damas appartient à Eretz Israël, puisque c'est la ville d'Eliezer qui était le serviteur d'Abraham. C'est pas une blague. Et vous avez remarqué que deux ou trois fois déjà, on est arrivé au port de Damas, mais le Meshek était trop difficile à gérer. Bien. Vayomer Abraham, et Abraham dit, Hein li, voici à moi lo natata zara. Tu n'as pas donné de postérité. C'est-à-dire que Abraham risque de faire un midrash sur la promesse de Dieu. Dieu lui a promis une descendance. Et bien peut-être que cette descendance, c'est à partir d'Eliezer, puisque c'est son intendant, c'était d'ailleurs son disciple, c'était son anir, c'était son condisciple. Et il n'a pas encore d'enfant. Alors, il se dit, peut-être que c'est ses promesses, ça concerne Eliezer. Eliezer, qui n'est pas n'importe qui, d'ailleurs, dans le monde de la vie. Vous voyez donc, c'est presque de façon systématique que la Torah nous indique toutes les étapes de l'hésitation à finir par croire, ah oui, ça me concerne quand même. Vous avez compris l'idée? J'ouvre une petite parenthèse, et en vous demandant vous-même de réfléchir là-dessus, parce qu'on va le voir à propos des trois promesses. La postérité, c'est-à-dire la dimension d'éternité des engendrements depuis Abraham jusqu'au temps messianique, jusqu'au Mashiach lui-même. Et le peuple juif est censé être cette matrice-là, le peuple hébreu, en tant qu'hébreu, la terre et la Torah. Et chaque fois, la descendance d'Abraham réagit à la manière d'Abraham, je veux dire dans chacune de ces trois dimensions. Une difficulté jusqu'au bout d'arriver à réaliser que c'est vraiment moi qui suis concerné par ça. Alors, je n'ai encore pas employé le terme de doute, mais déjà provisoirement, le mot de hésitation. Pourquoi? Parce que c'est tellement absolu, considérable, énorme, qu'il y a une sorte de vertige qui risque, en vertu exagérée, de poser la question du mérite, est-ce que je mérite? La réponse de Dieu à travers le Midrash, sous forme midrashique, serait « Mais de quoi tu te préoccupes? C'est toi que j'ai choisi. » Vous voyez la chutzpa qu'il y a quand Dieu dit à Israël « C'est toi, Israël dit, t'es sûr ?» Mais à peu près de quoi il s'agit. Réfléchissez bien à ça. C'est-à-dire c'est une tendance de l'identité juive qui travaille dans le temps contemporain, vous savez à quel point, sur les trois, la messianité, quoi moi, cette terre, quoi moi, la Torah, quoi moi, vous comprenez de quoi je veux dire, et qui vient à l'origine d'une vertu exagérée. Alors là, on est déjà un peu dans le centre du sujet. C'est-à-dire, au niveau d'Abraham, il n'y a pas de faute dans cette vertu exagérée. Pourquoi ? On l'a vu déjà hier.
Parce qu'Israël n'est pas
encore. Non, c'est pas ça. Juste bien. On l'a déjà analysé hier. Vous rappelez à quel propos ? Quand il prie pour Sodome et Gomorre. Vous rappelez ? C'est de la vertu exagérée. Alors, je vous l'ai dit rapidement, mais pour savoir si vous arriviez à le retenir même rapidement. Mais je savais que j'en reparlerai aujourd'hui. Alors, un peu plus analysé. Vous avez compris déjà comment la vertu exagérée, même en fin de compte, a une faute. Okay. Ne pas oser être ce que l'on est censé être. Un manque de courage, à la limite. Okay. Mais ce manque de courage peut venir d'une modestie exagérée. C'est clair ? C'est d'autant plus néfaste, insidieux, que c'est subtil et que c'est très vulnérable. Est-ce que c'est clair ? Je dis là. Alors l'exemple que nous avions eu de cette vertu exagérée qui au niveau d'Abraham n'est pas une faute, mais si c'est repris dans un processus répétitif par sa descendance, là ça se raccroche ce que tu viens de dire, à partir d'Israël où la règle morale c'est l'unité des valeurs et pas telle ou telle valeur exagérée, exclusive l'une de l'autre, vous suivez, okay. Mais ce serait une faute, mais au niveau d'Abraham, je veux dire, un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tenir le discours d'Abraham pour les gens de Sodome et Gomorre, il y aurait un éclat de rire là-haut. Okay, c'est une faute. C'est clair. Bon. Mais pour Abraham, ce n'est pas une faute. Au contraire, c'est une vertu. Pourquoi ? Si vous arrivez à attraper cette idée-là, c'est la clé du problème.
C'est la première fois, il n'y a pas d'expérience précédente ?
On pourrait le dire comme ça, mais ça ne suffit pas.
Parce qu'il a perçu le Créateur comme... avec sa vertu de charité.
Oui, mais alors dis plus. Oui, on s'approche plus. Ça veut dire que c'est ça Abraham. S'il n'était pas comme ça, il ne serait pas Abraham. Chez lui, ce n'est pas une faute. Parce qu'il est vraiment le tzaddik que de la vertu de charité. C'est clair ? Mais en cela, il est le commencement de l'engendrement de l'identité d'Israël, mais il n'est pas encore Israël. Israël, cette charité-là, conciliée avec la rigueur de la justice, dans l'unité des valeurs, la vérité morale, et c'est une fois Abraham, ancêtre de Jacob, a posteriori de Jacob, sera d'Israël. C'est clair ? Sinon, il s'agit de Lot. Il ne s'agit pas d'Abraham, au niveau des vertus. Vous vous rappelez de cela ? C'est bien clair ? Alors, je reprends la formule. En fait, pourquoi briller ? J'ai dit l'autre. Non, je n'ai pas dit l'autre. Nous allons voir un texte qui relie l'annonce de l'éventualité de l'exil à cette dimension de vertu exagérée qui commence avec Abraham. Mais en Abraham, il n'y a pas de faute. C'est quand sa descendance joue à ça qu'il y a une faute. En Abraham, la motivation est pure, absolue. C'est là le chesed qui fonctionne. Et son chesed est authentique. Lui est un véritable tzaddique. En lui disant, non, je ne peux pas sauver Sodome et Gomorre, tout se passe comme si Dieu lui dit en filigrane, tu n'es pas encore Israël, pour notre sujet. C'est clair ? Okay. Mais entendez bien que la prière d'Abraham pour Sodome et Gomorre n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue en vérité. Elle serait entendue si Dieu n'était que Chesed, mais il n'est pas que Chesed, il est l'unité des valeurs. Ça va jusque-là ? Et donc, Abraham, lui, est en droit absolu d'être ce qu'il est, parce qu'il est cela. Celui qui jouerait à cela serait en faute. Ça va ? Quelle faute ? Alors c'est ce paradoxe que le Maharal, je vous ai cité le Maharal à ce propos, a mis en évidence de façon très très précise dans son livre Gvurot Hashem, chapitre 9. Cette faute, c'est la faute de la vertu exagérée, et qui consiste à feindre de prendre pour modèle les absolus de la conscience morale, mais pris chacun d'entre eux séparés, alors qu'il faut les concilier et les vivre dans l'ordre de l'unité de valeur. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il s'agit d'une faute d'orgueil, prétendre imiter Abraham. Okay. Et à partir de ce moment-là, une étude, une analyse poussée de la motivation fait apparaître l'ambiguïté, l'ambivalence, et donc nous permet de parler de faute. De quoi s'agit-il en vérité ? Je vais donner un exemple dans les problèmes qui nous préoccupent. Vous avez de façon a priori de toute bonne foi et sans qu'il y ait à mettre en doute la sincérité de ce que je vais vous décrire, et parce que j'en ai eu souvent l'expérience de gens qui m'ont parlé comme ça, des gens qui voudraient venir habiter en Israël, des juifs bien sûr, et puis qui n'osent pas. Pourquoi ? Parce que, bon, à Paris, si on n'est pas très 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 vertueux, Shulchan Aruch, bon, c'est peut-être pas grave, on est à Paris. Mais en Israël, c'est grave. Vous voyez ? Une sorte de scrupule exagéré. Alors, si on fait une analyse très très précise, qu'est-ce qu'on trouve derrière ? On trouve derrière tout à fait autre chose. J'ai pas encore vendu ma deuxième maison de campagne. Bon, vous voyez le problème ? C'est clair ce que je dis là ? Et voilà ce qu'il faut arriver à comprendre à travers le Maharal. Au niveau d'Abraham, il n'y a pas de faute dans la vertu exagérée, parce qu'il n'y a pas d'exagération. Sa vertu est absolue, c'est comme ça qu'elle doit être. C'est clair ? Au niveau de la descendance, alors là se dévoile une tendance qui se cache derrière cet alibi de la vertu. Je crois qu'il y a une formule comme ça dans la sagesse des nations en général. L'exagération en toute chose, c'est néfaste, quelque chose comme ça. Mais c'est ça qui joue là, de façon très fondamentale. Chaque fois que vous avez un comportement exagéré, quel qu'il soit, il est suspect. C'est clair jusque-là ? Mais au niveau d'Abraham, c'est pas suspect. Il est le modèle de l'entièreté de cette vertu. Seulement, Abraham, on va être honoré, on s'en réclamera avec honneur, on lui donnera pas le pouvoir. Si on lui donne le pouvoir, il va le donner entre les mains des gens de Sodome et de Gomorrhe. Vous avez compris le problème ? C'est clair ? C'est le chassid. Le chassid, on ne le met pas au gouvernement. Ça va jusqu'à ce moment. Alors, on continue. Pas de questions ? Bon, moi, quand j'ai étudié ça, j'étais plein de questions. Donc, alors, à quel verset on était ? Ben oui, où il pouvait penser que ça passait par Eliezer. C'est clair ? Vayomer Abraham, Eli nonatata Azara. Et Abraham dit, voici que à moi tu n'as pas donné de postérité, Veine ben beti yoresh oti. Et voici que c'est un de mes familiers, ben beti. Je vous donne la traduction étymologique. À travers le latin, le mot de familier vient fils de la famille, baït c'est la famille. Okay. Familier, familias. Ça va ? Qui héritera de moi ? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit ? Ton salaire est très grand, n'aie pas peur, ne crois pas que tu l'as déjà utilisé pour protection pendant la guerre. Et qu'est-ce qu'il y avait en filigrane de promesse ? C'était la promesse de la descendance. Peut-être je ne mérite plus. Alors Dieu lui dit non, ton salaire est grand, ça veut dire que tu continues à mériter. Et voilà qu'Abraham dit, mais ça ne s'accomplit pas. Vous suivez ? Bon. Vous rappelez qu'on a eu une analyse parallèle avant les vacances, à propos de la notion de la foi. Hein, c'est Dieu qui promet, mais pourtant, ça ne s'accomplit pas encore. Quelle est la clause ? Être celui à qui cela a été promis. Ça va jusque-là ? Et ici, quelle serait la faute ? Ne pas oser l'être, manquer de courage de l'être. Il ne s'agit pas de faute au niveau d'acte, hein, mais au niveau de l'être. On redit. Verset 4, « Vehine devar Hashem el Avlemo » Et voici la parole de Dieu à lui en disant, vous voyez, l'interpellation revient chaque fois jusqu'à ce que Abraham finisse par l'entendre. Vous suivez ?
Est-ce que c'était un chemin intérieur ?
Tu m'as déjà posé la question autrement.
Oui.
Non, c'est pas son imagination.
Non, mais je veux dire, donc visiblement, il n'entend pas quelqu'un ou quelque chose lui dire.
Si, si, si. Il entend, mais il n'arrive pas à l'intégrer. jusqu'à ce que, on va arriver au verset 6, tout à l'heure.
Ce sera finalement là le problème, c'est que c'est quelque chose qu'il entend, mais qui ne fait pas le chemin pour Dieu.
Non, il a déjà fait un énorme chemin intérieur depuis le chapitre 12. Vous vous rappelez, au chapitre 12, il y avait trois mots. Ensuite, au chapitre 13, quand Job s'est séparé de lui, nous avions quatre versets. Et maintenant, il y a un chapitre entier. C'est-à-dire que c'est la même révélation, mais qui se reproduit jusqu'à ce qu'elle soit entendue de façon explicite.
Et comment ça se fait que ce ne soit pas immédiat ?
Et vous n'êtes jamais allé à l'école. Vous n'avez jamais remarqué que des choses que vous ne compreniez pas au début de l'année, à la fin de l'année, vous commencez à les comprendre. Alors, parce qu'on les a répétées 70 fois. Vous n'avez jamais remarqué ça. Je pense que c'est clair, il n'y a pas de trompe. C'est clair, je veux dire. Et parce que, encore une fois, ne croyez pas qu'il y a entre Dieu et Abraham un dialogue de professeur à élève. Okay. Où ça passe des notions abstraites qu'il faut comprendre et puis c'est tout. Il y a une situation concrète où Abraham doit se dépouiller de plus en plus d'une identité antérieure qui était arrivée à un point de, comment on dit en français, yéouche, mais je ne veux pas dire désespérance, à un point de renoncement pour récupérer l'espérance. Et ça, c'est un cheminement intérieur, vous avez dit, mais ça ne suffit pas de dire intérieur. Un cheminement de la vie intérieure qui est concret. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et ça ne se passe pas au niveau des idées. Ça se passe au niveau de la manière d'être. Et je veux dire, pour éclairer cela, finalement, cet acquis de la capacité d'espérance et de confiance et de foi, en fin de compte, d'Abraham, qui va éclater dans ce chapitre, en fin de compte, c'est un acquis définitif, presque héréditaire dans le peuple juif. Ça veut dire être assuré de l'accomplissement de la promesse en dépit de tout. Il n'y a qu'à simplement réaliser, ne serait-ce que sous forme d'image, la manière dont le peuple juif a traversé ces 2000 ans de l'exil de l'Empire romain. En dépit de toute invraisemblance possible, on a continué à être fidèle à cette espérance. Et en fin de compte, ça se réalise. C'est-à-dire, on devient comme ça. Et bien, il fallait le devenir. Et on l'est devenu. Mais ça, c'est le mérite des pères qui nous ont ouvert cet héritage-là. Bon, vous comprenez, indépendamment des mots, de quoi il s'agit. Ça veut dire, il y a dans l'identité juive une espèce de capacité de foi, en dépit de tout, qui est en béton armé. D'où ça vient ? Eh bien, c'est en train de s'acquérir, là. Vous savez très bien, j'ai l'habitude de dire, et c'est malheureusement pas une blague, il n'y a pas plus croyant qu'un juif. Un juif croit à n'importe quoi. Vous savez cela. Vous voyez la vertu que vous avez. Et c'est très dangereux de croire à vide. Ça croit à n'importe quoi. N'importe quelle liste qui apparaît, ils finissent même par croire au judaïsme. Alors dès que vous leur présentez un isme, ils y croient. Ça a commencé à l'isme de Suez, d'ailleurs, la bande des chiffres. Bon, ça va jusque-là. Tu comprends ? Abraham n'est pas l'ulpan. Emouna, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut créer le comportement intérieur qui le rende capable de réaliser, d'intégrer cela. Et au point de départ, il est absolument handicapé. Il est dans la situation d'une lignée humaine qui est arrivée à l'impasse absolue. Le camp de concentration d'Ur-Kasdim. C'est fini. C'est une civilisation disqualifiée. Et le juif de cette civilisation-là, c'est Abraham l'Araméen. À cet Abraham l'Araméen, on lui dit, je sais pas, rappelez-vous ce qu'avait dit Herzl au peuple juif. Si vous voulez, ça ne sera pas un rêve. Vous vous rappelez de ça ? Allez, il fallait arriver à vouloir que ça ne soit pas un rêve. On était tellement mieux dans le rêve. Tant que c'était un rêve. Vous vous rappelez de ce que dit les psaumes ? Nous étions comme des rêveurs. Vous vous rappelez, Aïnou Kéchalmi. Vous savez ça ? Voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, je vais surtout vous éclairer le texte, parce qu'on peut s'étonner. Pourquoi cette même parole revient si souvent ? Et vous voyez, surtout ici, au verset 4 de ce chapitre, « Vehine devarachem elalemo » lui répéter. Mais chaque fois, c'est plus explicite. Ça veut dire qu'Abraham entend plus, réalise plus.
Avec la
Kedat
Yitzhak.
Qu'est-ce qui est en contradiction?
Là, Abel Wancro lui dit quelque chose, pourtant il n'a rien à faire, juste à écouter, et à suivre son chemin.
Alors je crois que je ne suis pas arrivé à vous expliquer ce que je vous ai expliqué. Ça veut dire, essayez de caractériser ça comme ça. Je sais pas, vous êtes à la fois privilégié et handicapé. Vous êtes privilégié parce que vous êtes né après la génération précédente des grands événements de la Shoah et de l'État d'Israël. Et ça, c'est handicapé ou privilégié que j'ai dit ? Privilégié, parce que vous entrez dans un monde où la Shoah, c'est la préhistoire, et puis où l'État d'Israël est déjà là. Bien. Mais vous êtes handicapé parce que vous ne savez pas que c'était un monde sans ça. Okay. Vous n'avez pas réalisé cela. Alors imaginez que Dieu s'adresse à un juif français du XVIIIe siècle en lui disant « Tes descendants seront à, je ne sais pas, ou à quoi. » Vous vous rendez compte? Il faut réaliser cela. Que c'était utopique, inouï, invraisemblable. Et qu'est-ce que vous avez répondu tout ça. En quoi je saurais okay, tout ça. Qu'est-ce qu'a répondu ce juif du XVIIIe siècle? Mais moi, je suis français. Jusqu'aux sourcils. Les sourcils français. Qu'est-ce que tu veux dire?
Si on reprend les trois axes que vous avez...
Tu vas être un Algérien, alors, hein?
Si on reprend les trois axes que vous avez...
Oui.
C'est-à-dire l'homme vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, et l'homme vis-à-vis de Dieu. Est-ce que le problème qui se pose ici...
Les trois promesses? Et quel problème? Continue.
Est-ce qu'il n'est pas au niveau de Adam Béatzmo, le problème de la confiance qu'il y a ici? Puisqu'il n'est pas au niveau de la confiance que...
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est évident que Abraham a déjà découvert la vérité de la relation à Dieu. Il y a un créateur et qui est providence de l'histoire. Vous vous rappelez Abraham Nimrod? Vous vous rappelez de ça? Maintenant, ici, c'est par rapport à lui-même qu'est le doute. C'est ça la vertu exagérée. Quelle est la vertu exagérée qui travaille ici? C'est évidemment une vertu de piété qui s'appelle la modestie. Mais il faudrait, je vais peut-être trop vite, il faudrait d'abord que nous passions un temps X pour être assurés que la modestie est une vraie vertu. Okay, pour après entendre cela, qui est important, même peut-être paradoxal pour le genre de culture duquel nous procédons, la culture européenne, que la modestie exagérée... D'ailleurs, les psychologues savent que la modestie exagérée, c'est de l'orgueil en réalité, c'est de l'orgueil camouflé. Vous savez ça? Bon, je ne sais pas. Eh bien, apprenez-le.
La fausse modestie.
Pas la fausse modestie. La fausse modestie, c'est de l'hypocrisie, c'est encore autre chose. Okay. Mais la modestie exagérée, c'est un trouble profond d'un refoulement d'orgueil. Okay. Tu vois? Quand vous apprendrez la philosophie dans l'enseignement de Maïmonide en général, vous verrez ce principe qui est vraiment bien mis en évidence dans l'enseignement moral de Maïmonide. Le chemin du juste, c'est la voie moyenne. Tout ce qui est exagéré est suspecte. Surtout les qualités. Bon, mais avant de dire ça, pour que ça ne soit pas dangereux, il faut d'abord découvrir que les qualités sont des qualités. C'est clair ce que je dis. Alors, sur quoi nous jouons dans toute cette étude, sur ces deux registres? En Abraham, c'est authentique. Pour sa descendance, ça risque d'être une faute. Parce que dès qu'on fait une analyse, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la psychanalyse, mais dès qu'on fait une analyse de la motivation et de la conduite, se dévoile qu'il ne s'agit pas de ça. Qu'on est à l'abri d'une pseudo-imitation d'une vertu théorique. Et qu'on a des intérêts propres. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à découvrir. Pour pouvoir introduire cette citation du Talmud qui va nous dire tout crûment pourquoi la descendance d'Abraham sera 400 ans esclave en Égypte, la vertu exagérée d'Abraham. Quel rapport? Alors, le Maharal, c'est lui qui a le plus mis en forme ce problème, l'a éclairci de façon très simple. Chez Abraham, c'est une vertu absolue. Mais quand sa descendance s'en réclame, à tort, ça devient une faute. De quoi il s'agit? De la notion de vertu exagérée. Encore. Ça va jusque-là? C'est bien compris. Alors ici, ce qui travaille, c'est que Abraham n'arrive pas, et ça c'est l'histoire d'un nombre considérable de juifs à travers les générations, n'arrive pas à se dire, il est pris de panique, quoi, c'est moi cet Abraham à qui Dieu parle, mais c'est tellement énorme qu'on en a peur, ou non, peut-être c'est pas moi. Okay. Il y a un très joli poème de Flegg à propos d'Isaac. Et ça s'appelle La vision d'Isaac, ce poème de Vous avez lu les poèmes d'Edmond Fleg? Ça va vite, hein? La mémoire, l'oubli. Et alors, bon, c'est un très beau poème. Comment s'appelle le livre de poèmes d'Edmond Fleg? Michlaou. Je ne sais pas. Ça s'appelle Écoute Israël. Et alors, il met en forme un midrash où Dieu montre à Isaac, à propos de Akedat Israël d'ailleurs, l'histoire de sa descendance, et il lui montre l'exil. Et vous apprenez en histoire juive qu'est-ce que c'est que l'exil depuis le temps des Hébreux jusqu'à nous. Et ça continue dans les journaux avec ce qui se passe ailleurs, en Syrie, au Maroc, et en Russie, et partout. Et alors, Isaac est épouvanté, affolé. Il dit pourquoi. Alors, dans ce poème, Dieu lui répond, est-ce que tu veux que je choisisse un autre pour que ça... Il dit non. Continue. Alors, je vais dessiner un exemple parmi d'autres. Lorsqu'un juif se voit dans la glace, et puis il se dit, quoi, il faut que je prenne au sérieux ça que la Bible dit de moi, c'est trop énorme. Alors, il n'arrive pas à en avoir le courage. C'est clair? Alors, apparemment, et c'est ce que je vous ai cité de beaucoup de juifs en France qui me parlent comme ça, on voudrait bien vivre en Israël, mais il faut avoir un mérite colossal. Alors, et souvent je leur raconte ce que j'ai l'habitude de vous dire. Dieu a décidé au bout de 2000 ans, ça y est, tu reviens. Et alors les juifs disent non, je ne suis pas encore guéri. Vous vous rappelez de ça? C'est, à la limite, c'est blasphématoire, quoi. C'est chutzpah monumental. Dieu dit aux juifs, c'est toi. Et les juifs disent, t'es sûr? Retenez bien. Alors, on pourrait apparemment croire que c'est de la modestie. Oui, c'est de la modestie. Et c'est très bien, la modestie. Mais si elle est exagérée, alors c'est qu'il y a derrière quelque chose d'autre. Pas pour Abraham, pour sa descendance. Ça va jusque-là? Allez, on enchaîne. C'est mieux compris? Maintenant, pour ta question à toi, ce que j'attendais, c'est autre chose. Ces trois promesses correspondent à ces trois dimensions. Qu'est-ce qui se passe? C'est Sharon Shabbat ou quoi? Ah, c'est toi. Tu comprends, les trois promesses correspondent aux trois dimensions. Alors on continue. Reprenez le verset 4. Veine devar Hashem elav lemor. Et voici la parole de Dieu à lui pour dire Lo irashkaze. Ce n'est pas celui-là, le Syrien de Damas, qui héritera de toi. Im Asher yetze memeecha. Mais celui qui sortira de tes entrailles. Où il rachera, lui héritera de toi. Alors là, nous avons un verset très important. Notez la référence de ce verset, vous allez l'étudier par vous-même avec Rachid. Mais j'en donnerai une explication moins succincte. Verset 5. Vayotse oto achutza. Il le fit sortir en dehors. En dehors de quoi? Vous verrez Rachid. Comment vous pouvez faire trois choses à la fois? Lire, m'écouter et écrire. Vous arrivez à faire trois choses à la fois? Non. Alors, et suivez sur le texte, écoutez bien de quoi il s'agit. Si de temps en temps vous avez noté une référence quand elle est là, et après, si vous n'avez pas la mémoire, vous reconstituez. Mais vous ne pouvez pas faire trois choses à la fois. Donc, d'autant plus que vous ne relisez pas Bonhomme. Alors, verset 5. Vayotse oto achutza, achutza, il le fait sortir en dehors. Comment on dit donc dehors en hébreu? Achutza, vous voyez le A à la fin du mot, en direction de, okay. Je crois qu'en grammaire ça s'appelle le hé paragogique, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est pas contagieux, rassurez. Alors, veyetse oto achutza, d'après le pshat, et vous verrez Rashi, il le fit sortir en dehors de sa tente, il était dans la tente, il le fait sortir en dehors pour pouvoir voir le ciel. Mais nous verrons que c'est plus profond que ça, ce que Rashi cite après à Midrash. Vayomer, et il dit, habetna shamaima, contemple le ciel, les cieux, usfor akochavim im tochal lispor otam, et compte les étoiles si tu peux les compter. Vayomerlo, et il lui dit, ko ehi ezaracha, ainsi sera ta postérité. Alors le Midrash, en se basant sur le fait que l'expression pour dire contemple dans le verset, c'est quel mot? Vayomer, habetna. En hébreu, habet, ça veut dire regarder de haut en bas. Dans le sens étymologique strict. Ça veut dire que Dieu a situé Abraham au-dessus du déterminisme naturel. Il l'a mis sur le monde. et conclut le sens de son ouvrage. C'est-à-dire, tant qu'Abraham est soumis aux conditionnements naturels, alors il n'a pas de descendance. Mais si Abraham arrive à se défaire du conditionnement naturel, avoir ce courage de la foi, de penser qu'on peut surmonter les conditionnements naturels, alors il y a une descendance. Voilà, on arrive là au nœud du problème. Abraham, il est monothéiste, mais d'un monothéisme naturel. Il y a un Dieu unique qui gère le monde à travers des conditionnements naturels. Et voilà que ce qu'il entend dans cette promesse contredit sa foi authentique de ce premier monothéisme. Puisque cette promesse culbute les conditionnements naturels. D'après la manière authentique dont il connaît les conditionnements naturels qui gèrent les sociétés, qui déterminent les sociétés, qui conditionnent les sociétés, eh bien c'est fini, il n'a plus de suite. Alors, pour arriver à entendre s'il en aura une, il faut qu'il arrive à découvrir qu'au-delà des conditionnements naturels gérés par le Dieu unique créateur, il y a un niveau plus haut, qui s'appelle Hachem dans le texte, et pas Elohim. Et c'est pourquoi, au verset 6, juste la suite, le verset va nous dire « Ve'emin Hachem ». En fin de compte, il a eu foi en Hachem. Ça va jusque-là ? Bon, et à quoi ça ressemble ? À notre histoire, purement et simplement, c'est pas que ça ressemble.